Donc, vous êtes toujours dans les oreilles loin du front, et là, on va en fait enchaîner tout de suite avec notre dossier, puisque l'heure tourne, et qu'on va donc partir à Toulouse, et on se retrouve à Toulouse. Pourquoi ? Mais à Toulouse, au cours du festival Origine Contrôlée de cette année, de la fin 2010, c'était le 26 novembre 2010, et il s'agissait d'une rencontre intitulée « Le rôle des artistes, prendre la parole ou la porter ». Alors tout ça va être redécortiqué évidemment par les intervenants. Alors on a choisi de vous diffuser des extraits seulement de cette rencontre, mais ça va tenir sur ce mercredi et mercredi prochain, donc en deux parties. Donc aujourd'hui, on va commencer avec tous les intervenants qui vont se présenter. Donc le débat était animé par Tayeb Cherfi du Tacti Collectif. Il y avait donc Saïd de ministère des Affaires Populaires et de Zone d'Expression Populaire. Il en parlera justement dans son intervention. De Madge qui était qui portait Assassin Productions. De Rossé qu'on a entendu tout en début d'émission et de Mousse Hakim de Zebda. Voilà, et donc on va commencer tout de suite en fait avec Tayeb qui va nous présenter Rossé et puis Madge.
Ces artistes parce que, comme vous le savez, le Tactique organise des événements depuis fort longtemps, des événements engagés, avec des artistes engagés ou pas, ou peu, ou à leur manière, mais en tout cas avec une trace. Il ne s'agit pas pour Tactique Collectif de faire des concerts pour faire des concerts. Pour ça, il existe des salles à Toulouse et deux principales. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est mêler la part artistique, la part politique, l'engagement, la citoyenneté, la capacité à se mettre en colère, à critiquer, mais aussi à partager, à découvrir. Voilà, donc c'est un peu ça le bagage de Tactique Collective. Donc là, on est là au cœur de ce que je dis, c'est-à-dire c'est le festival Origine Contrôlée, et tous les jours, et ça depuis 7 ans, c'est toujours la même histoire. C'est on a des débats, on a des expos, on a des artistes qui reçoivent l'information dans leur loge, qui savent d'avance où est-ce qu'ils jouent et qui en général en repartent plutôt satisfaits. Mais peut-être qu'on est prétentieux en disant ça, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc, dans un premier temps, j'aimerais commencer par Rossé. Rossé, j'aimerais voilà, que tu nous dises un petit peu. Nous, on t'a invité, c'est pas innocent non plus, tu vois. On t'a invité, on n'a pas choisi Booba pour venir ici. On a choisi Rossé, on sait pourquoi.
T'aurais eu plus de monde. Hein.
Ouais, mais moins de consistance. Alors, je préfère la consistance. Et voilà, j'aimerais que tu nous dises toi comment tu te. Voilà, t'es un artiste. Alors bon, c'est l'artiste, mais tu évoques des questions. Il y a des prises de conscience, de la critique, de l'observation. Donc, j'aimerais que tu témoignes de ton expérience en tant qu'artiste. Et bon, après, je sais que parfois les artistes n'aiment pas ce terme. Mais je dirais en tant qu'artiste engagé, voilà.
En gros, ouais, effectivement, c'est vrai que depuis que j'écris, depuis que je fais du rap, j'ai toujours eu un penchant en fait pour le rap bien écrit, parce que moi, en fait, j'ai commencé à faire du rap. J'étais très très jeune à l'époque. J'écoutais Radio Nova, où il y avait les premiers rappeurs français qui rappaient dessus, et ils avaient pas forcément un discours engagé. Mais en tout cas, ils avaient un langage assez soutenu, dans le sens où ils se prenaient la tête à écrire des textes. S'ils allaient faire une faute d'orthographe, bon, tout le monde allait se foutre d'eux. Parce qu'à l'époque, c'était mal vu, tout simplement. Ce qui était bien vu, c'était de montrer qu'on est quand même intelligent. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est plus on va montrer qu'on n'en a plus rien à faire du langage, plus on est au dernier rang, et plus on est perçu comme quelqu'un, comme un bonhomme, entre guillemets. À l'époque, il y avait peut-être ce truc-là, mais moi, ce dont je me rappelle, c'est que le premier album d'NTM, c'était un langage très soutenu. C'est que le premier album de Ministère Hammer, c'était un langage soutenu. Pour Assassin, c'est la même chose. Pour énormément de choses, c'était ça. Malheureusement, ça, c'est un truc un peu d'où je viens, même si j'étais très jeune. Et il n'y a pas eu vraiment de transmission. Et petit à petit, ces gens, ces rappeurs de l'époque qui ont grandi, etc., ont senti que de toute façon, le rap vu que ça, c'était une musique qui s'était faite récupérer, n'allait toucher que des enfants, parce que, en gros, les artistes grandissaient, mais fallait, entre guillemets, se gagatiser. C'est que du coup, ces espèces de rappeurs, aujourd'hui, ont été atteints de jeunisme, et comment dire, et qu'on écoute aujourd'hui, je suis désolé, mais aujourd'hui, qu'on écoute les derniers albums d'NTM, en gros, ça a régressé en termes de langage. Moi, je suis, comment dire, je suis assez fan de cette époque que j'ai vécue. Et du coup, pour moi, ce n'est pas quelque chose sur lequel je fais des efforts. Pour moi, c'est quelque chose de normal d'essayer de bien écrire. Pour moi, c'est une espèce de moindre des choses, en fait. Et quand j'écoute aussi les rappeurs américains, c'est pareil. Je pourrais sortir une infinité de références de rappeurs américains qui écrivent très, 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 très bien. Et il y a même un espèce de fossé comme ça qui se creuse. Ce n'est pas pour faire des comparaisons, mais entre tout le travail qu'on peut mettre dans un texte de rap et le travail qu'on met dans de la variété. Et ce qu'on met dans un texte de rap, c'est tellement riche que je suis encore toujours étonné aujourd'hui quand je vois à quel point on va mettre ça dans une case de musique pauvre. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment naturel, de tout à fait normal d'essayer d'écrire en posant des questions, en ramenant un espèce de doute dans l'écriture, en se prenant la tête sur les rimes, faire des rimes croisées ou pas, etc. Toute cette technique, c'est un espèce de sport du rappeur en réalité. Ça veut dire qu'on va jouer du violon, on va se prendre la tête sur une certaine technique parce qu'on a envie d'être bon au violon, qu'on va écrire des textes de rap. À l'origine, parce que ça a changé depuis, et puis je ne vais pas juger les différentes variantes, mais c'est vrai qu'à l'origine, on se prend la tête sur l'écriture, parce que mine de rien, c'est aussi ça faire du rap.
Ok, et sur le... Toi, qu'est-ce qui a fait que... t'as eu cette, tu prends cette direction, c'est plutôt l'amour des lettres, des phrases, la technique, ou... tu portais une colère, elle porte sur quoi?
Alors c'est pareil, c'est tout bête, il y a toujours un côté un peu sportif. Ça veut dire aujourd'hui on va appeler quelque chose dans le rap, peut-être qu'il y en a qui connaissent ce mot, truc qu'on va appeler punchline. C'est quand on va dire une phrase un peu coup de poing, voilà, une espèce d'expression comme ça qui arrive et un peu coup de poing, la phrase que les gens vont retenir dans un morceau. À l'époque on appelait ça une phase, il y a eu toujours plusieurs noms, mais bon, ça reste toujours à peu près les mêmes techniques. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu, c'est normal parce que mon truc c'est l'écriture, et l'écriture interprétée. Pour interpréter quelque chose de bien, faut-il encore que ce qui est écrit soit intéressant. Donc c'est pour ça que j'essaie d'écrire des choses intéressantes. Donc il y a cette envie là et après il y a une autre envie qui est beaucoup plus personnelle, c'est celle de vouloir changer les choses. Et je crois que bon, c'est plus celle-là qui est au centre du débat. Mais pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que vouloir changer les choses, si je n'étais pas amoureux aussi de la partie artistique, j'essayerais d'écrire des livres plutôt. Et pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. À partir du moment où ce qu'on veut faire, c'est une belle œuvre, on est obligé d'essayer de lier les deux et d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait rien de gratuit. Ça veut dire que si je rentre dans quelque chose de trop explicatif, à un moment, ça devient ou un livre, un espèce d'essai de philo. Alors en plus, je ne suis pas philosophe. Mais du coup, là où j'essaye de me rattacher, c'est aussi sur le côté artistique et d'essayer de sortir le plus de phrases possibles intéressantes qui vont choquer, qui vont toucher, etc. Après, je me retrouve très souvent confronté à un défaut, c'est un peu je me tire une balle dans le pied, c'est que j'arrive sur scène, les textes sont très chargés d'énormément de choses, on arrive à un moment où on ne sait pas si on doit bouger la tête ou écouter. Et c'est peut-être aussi ça, espèce de problème qu'il peut y avoir avec ce genre de musique.
Ok. Alors merci Rossé. Alors on va passer à Madge et puis au fur et à mesure on va découvrir un peu la variété des artistes et des engagements. Madge, toi c'est Assassin. Moi on m'a toujours dit de toute façon le public Assassin c'est un public de rockers.
C'est
ce qu'on disait. Non mais je veux dire c'est ce qu'on disait. Et Assassin c'est plutôt enfin, moi, dans ce que j'ai écouté, et j'ai beaucoup écouté Assassin, il y a beaucoup de géopolitique mondiale. Donc, on est sur un autre registre. On est dans du rap, mais on est sur un autre registre. Tu peux nous en parler un petit peu du cœur du projet Assassin?
Bon, déjà, nous, nos origines à l'époque, c'est le mouvement hip-hop, c'est le b-boyisme. Ça veut dire qu'on s'inscrivait. Bon, il y a déjà. C'est l'époque à laquelle faisait référence. Rossé, c'est le milieu des années 80 et nous on est, enfin en tout cas moi quand je rentre là-dedans, je rentre dans un mouvement de contre-culture où on apprend où on apprend qu'aux États-Unis, il y a un truc magique qui naît de l'énergie avec deux bouts de ficelle. Et en fait, en même temps, moi, j'ai vite compris que... Parce que bon, j'ai un background un peu aussi dans le rock, mais quand j'étais plus jeune. Mais, donc j'ai vu l'arrivée du punk. Le punk, c'est la réhabilitation du rock, au vrai sens du terme. C'est-à-dire que le rock'n'roll était en train de s'endormir avec des virtuoses qui perdaient l'essence du truc. Et le punk est arrivé en réaction à ça. J'ai vite compris que le hip-hop, en fait, en tant que mouvement, était arrivé pour réhabiliter le funk au sens vrai du terme, c'est-à-dire au sens essentiel, c'est-à-dire le beat, le rythme. La musique black s'endormait dans une version très club du funk qui était le disco, en fait, qui est devenu même très très vulgaire à la fin des années 70. Quand le hip-hop est apparu en tant que mouvement musical, c'est pour réhabiliter ça, l'essence de la black music. Donc quand j'ai compris ça, il y avait le graffiti, il y avait les DJ, il y avait la danse, on était dans une dynamique de b-boys. Donc après, quand je suis rentré dans l'histoire Assassin, on était à une époque, donc là on est plus vers la fin des années 80, début 90, à une époque où le rap américain oscillait entre quelque chose de très esthétique, enfin le rap américain a toujours été très esthétique, surtout à cette époque-là, mais il y avait vraiment des groupes qui étaient là pour le style, pour la phase, pour l'esthétique, et il y avait aussi une branche dans le rap américain qui à cette époque-là émergeait, et c'est bon, l'avènement des groupes comme Public Enemy, comme Boogie Down Productions, avec des groupes qui allaient vers un engagement alors propre à ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire qui remettaient au goût du jour l'héritage des luttes des Afro-Américains. Alors c'est là que bon, moi, par exemple, j'ai vu la première fois que j'ai vu Public Enemy en 87, donc ça ne nous rajeunit pas, toute l'imagerie des S1W, pour ceux qui connaissent, quand les mecs arrivaient avec des fusils en tenue paramilitaire, avec des chorégraphies qui ressemblaient à des trucs militaires. On était dans un truc une imagerie un peu de guérilla. Le rap français a été à cette époque-là très influencé par cette sorte de rap, on va dire, politique. Donc, comme malheureusement, en termes de musique, je dirais de jeunes, hein, je mets des guillemets, musique de teenagers, on n'a pas inventé grand-chose à part peut-être faire preuve de mimétisme, mais ça, c'est comme ça, c'est pas notre domaine. Moi, je... Donc on a fait du mimétisme sur les groupes comme Public Enemy, c'est vrai que le rap français a sa genèse. Enfin, à cette période, en tout cas, était parti dans des textes très engagés, très politiques. Tu faisais référence tout à l'heure au premier album d'NTM. C'est vrai qu'on était dans du pamphlet, voilà. Nous, Assassins, on était aussi dans cette mouvance. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du rap à Paris, on était, nous, au nord de Paris. Donc, on parlait du nord hardcore, plus dur. C'était la branche dure de ce qui existait à l'époque. Et moi j'avais un background, si tu veux, qui était et musical et aussi politique, c'est-à-dire que j'avais dans mon parcours acquis certaines cultures du mouvement ouvrier révolutionnaire et ses pratiques. Et qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à bosser vraiment sur Assassin, je me suis dit qu'il fallait qu'on aille plus loin que juste faire des morceaux, quoi. Enfin, à un moment donné, si on parlait de la souffrance des gens, il fallait qu'on puisse être, sans se substituer à ceux qui étaient sur le terrain et qui étaient des vrais acteurs des luttes, qu'on puisse s'insérer là-dedans à notre niveau en étant des relais. Donc on va rejoindre la thématique, porter la parole ou l'apprendre. Et nous, on s'est dit qu'on pourrait peut-être porter la parole, c'est-à-dire être le relais... des gens qui en ont besoin sur le terrain, qui ont besoin de lumière pour des luttes, pour des injustices. Et on a eu une discussion au sein du crew. Et j'ai dit que il faut qu'on soit comme ça, parce que d'un point de vue éthique et d'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas être autrement. Et en plus, c'est ça qui va faire la différence entre nous et les autres. C'est qu'on a des forces, il faut qu'on les utilise. Et j'avais pris, moi, pour influence, des gens comme... des références comme Bernie Rhodes, le travail qu'il a fait sur les Clash, par exemple, ou John Sinclair avec le MC5, pour ceux qui connaissent, ou même plus près de nous, Marsus, qu'il a fait à une époque aussi autour de Béroyer Noir. Et voilà. Et donc, on a commencé à l'époque, au début des années 90, 92, 93, à rentrer en contact avec des réseaux. Donc, on avait organisé une conférence de presse réservée juste aux... C'est-à-dire qu'on avait tricard tous les médias institutionnels et on avait invité que les médias alternatifs et des gens de réseaux plus militants, comme des réseaux antifascistes. Voilà. Et c'est à cette époque-là également qu'on est rentré en contact avec donc différents réseaux, dont à l'époque le Comité national contre la double peine, qui deviendra après le MIB. Voilà. Et on a commencé à faire un chemin ensemble. Nous, notre démarche, c'était justement d'allier le culturel et le social, le festif et le moins festif, mais de donner une dimension de fête... De fait, à des choses qui parfois étaient plutôt contraignantes et dures à vivre pour les gens qui étaient sur le terrain. Donc, en gros, voilà un peu notre cheminement et comment on est arrivé à ce genre de positionnement.
Et tu peux nous parler de votre du 11 minutes 30, le projet 11 minutes 30. Tu peux nous en parler puisque c'est un peu dans ce contexte.
Et le
rappeler, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est un truc qui s'est fait en 1997, début 97, je crois, février-mars. Et c'est Jean-François Richet donc, qui était sur le teasing, pour parler techniquement, de son film « Ma cité va craquer ». Hein, c'est un terme un peu technique qui veut dire qu'on ambiance le public sur un événement qui va arriver. Donc c'est de la promotion. Voilà, il était dans cette démarche-là et il cherchait donc, un truc. Et il m'appelle un jour, il me dit « voilà, j'aimerais faire un disque ». Et c'était au moment où il y avait la polémique sur les lois d'Aubry. J'aimerais faire un disque et je sais pas, voilà, j'aimerais reverser l'argent. Et donc, je lui dis, écoute, nous, ça peut nous intéresser. Même moi, ça m'intéressait de rentrer en tant qu'acteur dans la conception du projet. Je lui dis, mais par contre, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit tout de suite d'accord. Il n'est pas question si on fait... Parce qu'il y avait toute une campagne aussi de réalisateurs qui servait la soupe au PS, en fait. Alors, volontairement ou involontairement, j'en sais rien, mais c'est au moment des législatives de 97. Et donc, moi, je lui ai dit, nous, on peut s'engager là-dedans. Donc, déjà, il faut définir à qui on va verser l'argent. Et deuxièmement, il est hors de question d'être sur un discours, parce que c'était le risque de servir la soupe, en fait, pour les élections à la gauche plurielle. Parce qu'en matière d'immigration et de législation contraignante et de la négation des droits des travailleurs immigrés et de leurs familles depuis des années, la gauche a largement contribué aussi. Donc on a fait une sorte d'assemblée un peu informelle qui rassemblait donc nous, Assassin Production, le MIB, puisqu'on avait décidé à l'époque que les bénéfices iraient au MIB.
Mouvement immigration et banlieue à Paris.
Voilà, c'est un réseau qui était issu du Comité national contre la double peine, qui regroupait des militants historiques en région parisienne et en France, région lyonnaise, etc., sur les questions des quartiers populaires. Et il y avait bon, Jean-François Richet et sa production, et également la production Crépuscule qui bossait avec Richet. Et on a mis tout ça en place, je crois que le truc s'est enregistré. Enfin, le projet a été bouclé en même pas deux semaines hein, et sorti à l'arrache. Et on avait fait, je me souviens, un concert au moment de la sortie du disque, un concert qui était le lancement de la campagne Justice en banlieue à l'époque, où on avait, bon, pareil, fait un concert de soutien pour le MIB et la radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio parisienne qui travaille beaucoup sur les questions associatives et voilà, qui avait aussi besoin d'argent. Et ben, je crois que c'est devenu ce disque, un disque historique dans le rap français. Après, bon, la qualité, on peut en parler, mais en tout cas, en termes de projet et la manière dont ça s'est mené, je crois que c'est un des rares maxi de rap français à être sorti de la manière dont il est sorti et avoir vendu autant. Et puis bon, c'était surtout, du point de vue politique, quelque chose qui mettait, pour une fois, le milieu du rap dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux que ce qui pouvait être par moment.
Oh, tiens. My voice is fucked up. Yo, yeah. Yo, yo, Mike Nouveau, Mike motherfucking Nouveau. You know what I'm saying? Yo, yeah, yo, 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 I don't feel shit like that. Spit like that, live life like that, give life like that, take life like that, explore shit, some real hardcore shit, more shit, war shit, talk shit, I worship the devil. Black Sabbath when Stony Brook rolled through Paris, crackers, rugged man, Big Earth, my man 1IJ. You better shut the fuck up, shit is what I say. The RUG, y'all can't touch that shit. We rap for real, rugged, we love that.
Yeah, on aime cette shit, on fuit cette shit, on se bat pour cette shit. Faut qu'elle reste authentique, supersonique. C'est R.A. de Ruggerman et te squat pour le rocking game. On se frappe à Ken, la merde la même, problème, dilemme. J'plante les graines, mes ducs m'amènent, cultive, enseigne. On rap, font l'huile et notre musique saigne.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les crocs cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
to the real motherfuckers,
push em up, push em up.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les crocs cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
for the real motherfuckers,
push em up, push em up. J'ai le vocabulaire que j'ai le style que j'ai. J'ai engagé la force que j'ai pour ravager les préjugés, j'ai l'œil ouvert, j'ai jaugé le terrain avant de le juger. Hey, j'ai des plans pour que notre futur soit protégé. Rédiger des milliers de rimes pour que les faux soient corrigés, pour que le mal ne soit passager. J'ai les bases, les racines et les fleurs d'oranger. J'ai des longueurs d'avant, je n'ai même plus envie de me venger. Des coups de pute qui m'ont plongé au plus bas quand je n'avais pas les armes pour recharger, pour mélanger mon style à suivre tous les étrangers. J'ai trop technique pour qu'on me nique. Hey, trop de pratiques pour négliger, mais éroger la confiance qu'ils ont érigée.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les coups cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
to the real motherfuckers,
push em up, push em up.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les coups cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
for the real motherfuckers,
push em up, push em up.
You see that there, I don't care who y'all are. Big Earth the midget face, aka Babar. Yeah. Nigga now squeezing the asses of white bitches. Real life bitches, yeah. Get it right, yeah. Bitches. Zef Kisucci, a buck 60 to 260. Klaus Kinski, call me Thug Jiggy. Street shit, French Connection, Papa Doyle, Gene Hackman, rap for real. Real rappin',
come on.
No green, roll through my whole team, yeah. Watching vampire flicks from Gene Rolin. Hook the beat up, smash shit, break shit up. Assassin, rugged man, about to wake shit up.
On a besoin de plus de confiance, plus de respect, plus de créativité, plus de chaleur, plus de paix, plus de compréhension, plus de temps pour nos enfants, plus d'amour, plus de plaisir, on y retourne lentement.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les crocs cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
to the real motherfuckers,
push em up, push em up.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les crocs cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
for the real motherfuckers,
push em up, push em up.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les crocs cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
to the real motherfuckers,
push em up, push em up.
Think Stony Brook ain't got thugs.
Pour tous les crocs cramés d'en bas,
push em up, push em up.
Si tu penses que tous les chiens parisiens n'ont pas de props,
for the real motherfuckers,
push em up, push em up.
Think Stony Brook ain't got thugs.
I don't give a fuck. I'm gonna die this year, yo. You'll see that shit,
rugged man.
Let's get this dick, bitch.
Eat it.
Get smacked in the fucking face, bitch.
I flip the fuck
you know
out.
Motherfuckers know about that.
Et voilà, vous êtes toujours dans Les Oreilles Loin du Front sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et là, tout de suite, c'était Assassin, justement, puisqu'on parlait de ce groupe avec Madge. Et puisqu'on est en train d'écouter des extraits d'une rencontre qui s'était tenue au festival Origine Contrôlée le 26 novembre 2010. Et la table ronde s'intitulait « Le rôle des artistes, prendre la parole ou la porter ». Donc, c'est l'interrogation de base. Et là, tout de suite, on repart avec donc Taïeb Cherfi qui anime ce débat donc du Tactique Collectif et qui va nous présenter, et qui se présentera lui-même, Saïd de Zone d'Expression Populaire et également de Ministère des Affaires Populaires.
Saïd, tu es proche, tu es proche des indigènes de la République, du FSQP aussi. Tu t'es intéressé, préoccupé et en colère contre, contre ce qui se passe dans les quartiers populaires, comment les gens sont traités, leur histoire. Voilà, moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de voilà, ton esthétique. Donc c'est on est encore, moi ça s'est trouvé comme ça, hein, mais on est encore dans le rap, mais avec une toute autre histoire et un tout autre angle par rapport à ce qu'on a écouté jusque-là. Saïd, toi, moi j'aimerais que tu nous dises un peu ce qui t'a influencé artistiquement, parce que tu fais du rap, mais tu vas nous en parler. Et ce qui t'a influencé, et puis ce qui te préoccupe, ce qui te met en colère, et pourquoi tu fais ce que tu veux. Ce que tu fais, pardon. Et t'as raison de faire ce que tu veux.
Bah, comme Madj disait à l'instant, on a commencé, quand le rap est arrivé, c'est sûr, par mimétisme. On avait des Noirs et des Arabes qui gueulaient dans un micro et qui racontaient ce que nous on pensait dans le quartier, ce qu'on chuchotait, ce qu'on se murmurait et qu'on n'avait pas le droit de crier très fort parce qu'on passait pour des énervés et qu'il y avait des mecs comme ça qui arrivaient comme des dingues et qui racontaient nos vies et nos préoccupations. Alors c'est sûr que bah, ça insuffle quelque chose, il y a de l'identification. Je crois que ça commence comme ça. Et surtout qu'à l'époque, les premiers albums de rap étaient un peu pirates. Ils ne passaient pas dans les médias dominants. Vraiment, ils se passaient un peu comme ça par cassette ou c'était distribué dans des shops comme ça un peu plus indépendants. Et on avait vraiment, en termes de contre-culture, on avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose puisqu'il y avait une forme de subversion comme ça puisque ce n'était pas dans les médias dominants. Donc c'est sûr qu'on a commencé comme ça, par mimétisme, à être intéressé, et puis à essayer de faire comme eux. Moi, je me souviens que mes premiers textes, je les écrivais sur la route du concert de NTM quand je rentrais chez moi. C'est que là, je me disais, ouais, moi aussi, il faut que je fasse un truc comme Kool Shen et Joey Star. Et évidemment, ça a participé à notre construction politique, et on s'est intéressé évidemment au reste aussi. À l'époque, c'était aussi l'époque Zebda aussi, où la parole de gamins de notre âge, ou un peu plus vieux ou un peu plus jeune, qui utilisaient nos mots. Et donc voilà, ensuite, c'est vrai qu'en faisant les recherches, en grandissant, en se posant des questions sur l'identité, parce qu'on n'a pas eu le choix de se poser ces questions sur l'identité par rapport à ce qu'on vivait en France en tant que minorité. Et donc on s'est intéressé à notre histoire, à nos héritages, et politique aussi. Donc en termes d'héritage politique, il n'y a pas que la musique. Cette histoire de hip-hop et justement de parole, parce que moi, notre projet, elle s'inscrit tout à fait là-dedans. Pour nous, la parole, c'est c'est la transmission, la parole, c'est la langue maternelle. Si c'est la langue maternelle, la parole, c'est la vie, en réalité. Et donc, pas de parole, pas de vie. Donc, pour nous, prendre la parole, c'est une forme de résistance. C'est une question de survie. Et donc, ça, pour moi, ça s'inscrit ça se réfléchit par rapport à la société dans laquelle on vit. Sociétale, sociale, politique. Ma parole est-elle la parole dominante ou est-elle la parole dominée? Est-elle la parole majoritaire ou est-elle la parole de la minorité? Si elle est la parole de la minorité, évidemment, il y a une question de réappropriation de la parole. Il y a une question pour de légitimité de la parole, de lutte aussi pour cette reconnaissance de cette parole qui est souvent, si elle est minoritaire, confisquée, censurée. Quand je dis dominant, dominé, c'est par rapport aux médias dominants, à la classe dominante, sur des questions sociales, raciales. Donc quand on a une parole dominée, ben, je crois que si on veut, donc si la parole c'est la vie, on n'a pas le choix de la prendre pour une question de survie. Après, il y a plusieurs manières de la prendre et pour plusieurs raisons. La parole, elle peut être prise pour galvaniser les siens, c'est-à-dire pour insuffler, pour proposer aussi aux siens, donc si on est dans des rapports de domination, bah, les nôtres, dominés. Et elle est là aussi pour faire affront, pour défier, pour terroriser aussi la parole dominante, la classe dominante. Moi, c'est comme ça que j'entends les choses. Et puis, la création, on parlait de création, d'esthétique aussi, la vie, c'est ça aussi. Je le répète tout le temps et dès que possible. Lors de mon premier voyage en Palestine, il y a une gamine qui m'a dit, et que ça m'a un peu chamboulé, et ça a défini plein de choses pour moi, qui m'a dit « Je ne laisserai jamais l'oppresseur imaginer qu'il a réussi à m'enlever ma joie de vivre ». Et c'est pour cela que je danserai, je fêterai les mariages, j'irai faire la fête et je ferai de la musique avec avec mes compatriotes, mes collègues, mes amis, etc. et ma famille. Et donc voilà, donc pour moi, la parole, c'est la vie.
Après, tout ce que tu dis, tu l'as mis en pratique, puisque est-ce que tu peux nous parler de ton album et de, du concept avec, avec Saïd Boumama, qui est sociologue, que certaines et certains d'entre vous connaissent. Et c'est pas commun, c'est un artiste avec un sociologue sur... sur un thème. Alors, d'où ça vient cette idée d'album avec un visuel avec de multiples visuels particuliers, quoi. Je veux dire, c'est particulier, quoi. T'es d'accord?
Non, c'est sûr, mais ça vient de plein de choses. Bon, on a fait un projet pour ceux qui savent pas. Le visuel, c'est un projet qui s'appelle Devant l'insolence, nique la France. Et donc, ce projet-là, on s'est associé avec un sociologue où justement, quand on parlait de paroles minoritaire et majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi une rhétorique, une dialectique majoritaire et une dialectique minoritaire. La majorité méprise, ignore la minorité. Et donc, si elle est méprisée, elle est pas légitime. Et nous, on a décidé, nous, on estime que notre parole est légitime. Donc, notre rhétorique, nos mots, notre vocabulaire, nos arguments sont légitimes, même si la classe dominante ne veut pas l'entendre. Et nous sommes tous fabriqués par la classe dominante. C'est-à-dire un nique la France, et une phrase comme celle-ci qui existe depuis 70 ans dans les quartiers populaires, aujourd'hui est inentendable par la classe dominante. C'est une grossièreté qu'on ne peut pas accepter, anti-républicaine, etc. Et pourtant, elle existe. Et si elle existe, elle est légitime. Et donc nous, on a décidé à un moment de rendre légitime notre parole, tout simplement. Et le seul moyen pour nous, c'est de créer, de fabriquer. Et donc on s'est associé à un sociologue. Enfin, je tiens à dire quand même que on a décidé de faire ce projet-là par rapport à ce que j'ai vécu avec MAP, où j'ai toujours eu cette vision des choses par rapport à l'écriture, par rapport à la musique, où j'ai eu l'impression à un moment que des fois ça perdait du sens, que j'avais certainement pas envie de me faire folkloriser. Et j'ai eu l'impression, et c'est même pas une impression, d'avoir été folklorisé, et puis ça a été souvent un folklore assez colonial finalement. J'ai jamais entendu autant de réflexions racistes et paternalistes que sur la route après des concerts, où on nous disait super intégration. C'est... ce genre de phrases, on a été confronté à ce genre de choses, et je me suis dit, mais pire que pas être cohérent des fois, j'ai pu me rendre compte que des fois c'était même incohérent. C'est que finalement, se retrouver sur une scène avec 10 000 personnes en face de soi, tout le monde le poing en l'air, et quand tout le monde s'en va, c'est rempli de canettes de coca par terre, et tout ça, je trouve vraiment, j'ai trouvé ça incohérent. Donc je me suis dit, à un moment, il fallait essayer plutôt la subversion, l'alternative, et essayer de planter les petites graines comme ça. Donc on a fait un album acoustique, et puis on s'est associé avec un sociologue, et on a posé une dizaine de textes sur ces questions, sur ces réflexions autour du rejet de cette France qui est colonialiste, raciste, impérialiste, capitaliste, paternaliste, etc. etc. Et donc on a fait une série d'articles avec ce CD, voilà, qu'on a tiré en quelques exemplaires, et puis voilà, un peu de subversion. Ça fait un peu mal au début, la subversion, mais après ça libère.
هني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافي.
J'ai quitté mon soleil, mes étoiles, mes parfums, mes couleurs, mes amis, mon village, mon pays, mes saveurs, mon ciel, mes racines, ma mère, mes repères. Parti reconstruire, j'avais besoin de changer d'air. J'ai tout quitté, abandonné tout ce que j'avais de plus cher. J'ai pris la route, pris la tangente dans mes poches, que de la poussière, que des rêves, des désirs, des chansons, des chimères, des mirages insaisissables comme le sable de mon désert. En mémoire, quelques vers en berbère que fredonnait ma grand-mère. Ces notes inoubliables qui me disent reste sincère. Sans me retourner à l'instinct, j'ai sauté dans le premier embarcadère, sans savoir que j'avais troqué ma misère pour l'enfer.
كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافي.
Tous les matins, 4 heures tapante avec l'appel sur le chantier. Ramper, supplier le patron de m'exploiter. Voilà 6 ans que je galère en m'esquintant la santé. 6 ans d'humiliation et toujours pas ce bout de papier. Travail au noir, rester cloîtré, mon quotidien est un calvaire. Déprimé, fatigué, dès qu'on se poursuit dans le RER. L'effet de l'alcool ne calme même plus mes douleurs. Mon stress, mes cauchemars, mes angoisses et mes peurs. Pour vous, je ne suis qu'un étranger, un homme à exploiter. À pourchasser, à insulter, à enfermer, à expulser. Je ne suis qu'une menace, un esclave ou un danger. Je ne suis qu'un sans-papier, sans droit, sans dignité.
كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافي كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافي من هو يرفضك في الغربة غير لي لاقيك بخشبة معاه الحاقك لا ضربة فلسو صالة واجية شو ما جل يوم لاسقني ست سناس لرابطني نصبح نجري وندني ونعشي كيما هي كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافية كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافية.
C'était ZEP, Zone d'expression populaire, donc Zone d'expression populaire, dont on avait entendu Saïd nous présenter un petit peu son point de vue. Je rappelle d'ailleurs que Zone d'expression populaire, c'est donc d'abord ce projet qui réunit un livre avec des textes de Saïd Bouamama, qui est sociologue, et des photos, et qui s'intitule Devoir d'insolence. Donc là, vous pouvez trouver ce disque. Et récemment, ZEP donc, a sorti un deuxième disque qu'on peut trouver dans le commerce également. Voilà, on repart donc dans cette rencontre intitulée « Le rôle des artistes, prendre la parole ou la porter ». C'était à Toulouse, au festival Origine Contrôlée, le 26 novembre dernier. Et après avoir entendu Rossé, Madj et Saïd, on va entendre maintenant Mousse, présenté par Taïeb.
Là, on va passer à Mousse maintenant. Donc, bon, Mousse, on se connaît bien, on se connaît un peu tous les deux.
Un petit peu. Ouais.
Voilà. Enfin, donc là, connais... on est. Là, du coup.
Je connais bien tes frères et sœurs.
Non, mais là, on va sortir quand même du. On va sortir du hip-hop au sens où on l'a entendu jusque-là. Voilà, puisque Mousse, c'est. Bon, bien sûr, c'est son festival, puisque c'est Tactique Collectif, Mousse. Et c'est, en ce qui concerne ses projets artistiques, c'est. Bon, le premier, le plus connu, évidemment, Zebda. Il y a eu les 100% collègues, il y a eu Motivé, cet album de chant de lutte. Il y a eu l'album personnel Mousse et Hakim, ou Hakim et Mousse. Puis il y a eu Origine Contrôlée, j'espère que j'oublie rien. Origine Contrôlée. Donc là, on est sur. Parce que bon là, le Tactique Collectif est plus ou moins proche de ses projets, est plutôt proche. Mais là, on est sur des. D'abord, on n'est pas sur du rap parce que, enfin, en tout cas, en ce qui concerne Zebda, c'était parfois classé rap, mais enfin, assez exceptionnellement, mais plutôt.
Non, mais je te dire, ce soir vraiment, je me sens rappeur, quoi. Non mais okay. Donc je le dis parce que d'abord il y a une parole qui est là et puis il y a un univers qui me parle puisque j'aime beaucoup le hip-hop, tu le sais, et je me sens rappeur d'autant plus que voilà, il y a quelque chose dans cette expressivité, ce besoin de d'écrire ou cette capacité à saisir une opportunité d'une vie meilleure aussi, hein, bon, parce que c'est quand même sympa comme métier a priori quand on y arrive, quoi. Je dis ça aussi parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un article dans la Dépêche, il y a peut-être un mois ou deux, qui annonçait le retour de Zebda et qui disait, en parlant d'Hakim et moi, les rappeurs de Zebda. Encore une fois, c'est-à-dire quasiment 15 ans après. Mais là, il faut voir le sens qu'il y a derrière. Hein. faut voir le truc que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que, effectivement, il y a une forme de stéréotype comme ça, puis il y a une espèce de synonyme qui est collé, puis qui est surtout un synonyme qui a une valeur qui n'est pas celle de la reconnaissance, hein, c'est plutôt celle de la stigmatisation. Et c'est dit comme ça, alors c'est dit un peu dans l'esprit de, bon, peut-être paternaliste ou j'en sais rien, enfin, de manière de maintenir une parole dans un registre particulier. Mais j'ai envie de dire que ce soir, je me sens rappeur parce que quelque part, je trouve dans l'urbanité du hip-hop, ou dans cette dimension-là, une parole particulière. Cette parole-là, c'est celle qu'on essaie de développer depuis des années, dans la mesure où on a eu à un moment donné, comme on dit ici, bon, ils disent à un moment donné dans le Nord, mais nous on dit à un moment donné, bon, c'est presque pareil. À un moment donné, on a eu cette opportunité d'abord d'une vie meilleure, j'ai envie de dire, enfin l'opportunité d'avoir une vie professionnelle particulière, en fait tout à coup quand on s'est rendu compte que c'était possible d'en faire quelque chose. Mais je tiens à préciser cet aspect-là des choses, parce que en fait le thème du débat c'est on prend la parole ou on la porte, en réalité on évoque donc le rôle de l'artiste, mais moi je voudrais nuancer une chose, c'est la définition de l'artiste, c'est-à-dire pour moi artiste c'est pas un métier. Chanteur, guitariste, comédien, réalisateur, c'est un métier. Artiste, c'est une manière d'être, un besoin de s'exprimer, une capacité à le faire. Je dis ça parce que j'ai grandi dans des univers entourés d'artistes qui montent des échafaudages aujourd'hui, toute la journée. Mais je veux dire, et qui ont une capacité à s'exprimer, un besoin fort de dire des choses, et que cette dimension-là, elle est confrontée de plus en plus à un fonctionnement général qui aurait tendance à dire que la parole artistique est une parole à vocation industrielle. Alors, et c'est pour ça que j'aime pas trop moi le terme de porte-parole, parce que pour moi, dans porte-parole, il y a une notion d'exemplarité. Et ça me dérange profondément. Ça me dérange profondément la notion d'exemplarité, parce qu'on répète sans cesse à des gens qui ont des difficultés pour s'en sortir ou à construire ou à s'équilibrer, il y arrive bien, lui. Et moi, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. La parole, je ne veux pas qu'on me dise, comme on a dit, comme j'ai pu l'entendre, où tout le monde, ouais, regarde Zidane, il y est bien arrivé, ou enfin, une chose comme ça. Enfin, c'est quand même particulièrement insultant et méprisant. Donc la notion de porte-parole, elle me gêne de ce point de vue-là, parce qu'elle insinue ça. La notion de porte-voix, c'est encore autre chose. Mais je reviens sur ce qu'a dit Rossé, on travaille sur le langage, et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant parce que le langage, c'est ce qu'on nous supprime en premier lieu. Il me semble qu'on se retrouve dans des formatages de langage qui font que, par exemple, quand on comprend pas un problème, au bistrot du coin, on dit c'est un problème d'intégration. Mais c'est pas le bistrot qui l'a inventé. C'est l'homme politique qui a rien compris à la problématique. Il dit ça. Alors, c'est repris dans les médias. Et donc, du coup, c'est relayé. Encore une fois, on a eu des échanges avec Saïd hyper intéressants sur un terme qu'on voit de plus en plus. Ce terme, c'est « issu de la diversité ». Non, mais c'est quand même un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça insinue que les Blancs ne font pas partie de la diversité, on est d'accord. Mais on l'entend tous les jours. Et en même temps, c'est repris en permanence parce que forcément, au bistrot du coin, on relaie ce qu'on entend, quelles sont les fenêtres, quelles sont nos opportunités de déconstruire une propagande hyper dominante, un langage dominant qui nous submerge. Alors, pour moi, la notion de prise de parole, c'est l'idée d'une construction de contre-propagande. Ça avait été évoqué dans des débats qu'on a vus et qu'on a organisés ici à Origine Contrôlée, qui nous aident à mieux comprendre. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas la différence entre le background, notre compréhension des choses et notre manière d'assimiler ou de nous conscientiser et notre capacité à travailler sur l'esthétique, à développer une manière de faire, un savoir-faire qui fait que c'est un métier, oui. D'être musicien, d'être sur la route, c'est un métier. On apprend à travailler avec les gens, on apprend à faire du studio, on apprend à développer des projets, à les faire connaître. Et à partir de là, on fait des choix. On fait des choix qui sont des choix pas forcément, je veux dire, je ne veux pas en rajouter, ce n'est pas des choix forcément tout le temps idéologique, c'est aussi une manière de dire j'ai un besoin de reconnaissance, j'ai besoin de parler au plus de monde possible, je suis pas un artiste maudit, j'ai de l'ambition, j'ai envie d'y arriver, mais je me dis pas à n'importe quel prix, pas à n'importe comment. Je me dis au bout d'un moment je vis pas ma visibilité comme quelque chose, comme un trou sans fin. Même si je vis très bien cette idée de reconnaissance, cette idée d'être, d'être ce relais-là.
Et, enfin, nous, on connaît ça de près, mais c'est à la fois être artiste, faire des chansons, partir en tournée, et c'est avoir un engagement associatif. C'est comment tu vis les deux là ? Oui. Parce que c'est un peu un cas pas commun d'être à la fois militant, associatif et politique, en vrai. Et partir en tournée, faire de la musique.
C'est vrai qu'on a une histoire particulière. Les gens qui nous connaissent le savent. On a une histoire particulière. On n'est pas. C'est vrai que nous, le groupe et notre dynamique artistique, elle est née d'une dynamique associative. Et souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est un groupe qui fait exister ou une pratique artistique qui fait exister une dynamique collective. Là, c'est l'inverse. Donc, on avait déjà le socle d'une construction qui nous a permis de garder du lien. Mais ce qu'on a compris très vite, c'est qu'au travers. Et c'est là où c'est intéressant, cette notion de prise de parole et même de construction de nos histoires d'artistes, c'est que c'est une formidable dynamique. Ça permet des choses, ça permet d'insuffler ce que disait Saïd, c'est-à-dire cette idée que la joie de vivre ou que l'art, par définition, même s'il est très sombre, même s'il est très dark, très sombre, il est porteur d'espoir, puisqu'il est l'expression humaine. Et que c'est des mots sur des émotions qu'on essaie de mettre en place, nous et d'autres, chacun à sa manière, chacun dans sa pratique. Mais c'est une formidable dynamique, surtout en vue d'une acquisition d'une parole autonome. En vérité, c'est ça la réalité. Enfin, par rapport à notre dynamique associative, on le sait très bien. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, politique dans ce pays qui a fait que majoritairement les dynamiques associatives, et notamment dans les quartiers populaires, ont été... tué dans l'œuvre, j'ai envie de dire, par l'ascenseur social et par le clientélisme. Cette autonomie que nous donne... En gros, on est devenu musicien. Mais franchement, tu le sais, je serais certainement devenu travailleur social. Non, mais enfin, je dis ça pour dire que... Voilà, pour nous, ça a été tout de suite... on a tout de suite perçu une notion de complémentarité et encore plus dans la mesure où on partait en tournée et qu'on allait... un peu partout en France, découvrir et à la rencontre de dynamiques qui étaient hyper inspirantes. Que ce soit dans le nord de la France, en banlieue parisienne, en banlieue lyonnaise, d'un coup, on voyait des gens qui faisaient des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Tout simplement. On disait, ah ouais, ça serait super. Et on revenait ici, et on se voyait, et on disait, mais t'as vu, là, ils font ça, on pourrait faire pareil. Et puis on le faisait, et puis on trouvait que c'était bien. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est... Il y a toutes sortes de déclinaisons. Alors après, pour revenir sur le thème, je veux dire, cette notion de prise de parole, elle est forcément liée à une démarche. Et là, on est plutôt assez bien représenté, je trouve, entre l'écriture de Rosset, Madge, qui était vraiment le porteur de la démarche assassin, on peut dire ça. Il n'était pas sur scène, mais dans la démarche, il a donné toute la profondeur. Saïd, qui est plutôt un peu de la nouvelle génération, hein, j'ai envie de dire ça. T'es pas si jeune, mais quand même un peu. Non, mais c'est vrai, il y a une espèce de relais... On se retrouve complètement. Et puis, c'est vrai, toi, tu pourrais t'exprimer aussi au même titre que Madge, quelque part. Voilà.
Les enfants comme les éléphants, ça trompe. Chez nous, tu les retrouves à l'odeur des pompes. Ils sont filous, mais tu peux te fier à l'odeur un peu piquante des pieds. Ces membres sont de ma rue, de ma tribu. C'est pas des images qu'on leur attribue. Ils ont la médaille à tous les sports, comme leur père la gamme d'or. Et si t'images pas ton salaire, c'est bien grâce au secours populaire qui se pointe dès que la galère sera dîne avant la fin du mois. Je suis Danilo qui boit pas que de l'orangeade. On n'est pas tous égaux, on n'a pas la même ambassade. Je suis Danilo qui boit pas que de l'orangeade. On n'est pas tous égaux, on n'a pas la même ambassade.
Valtre Vaux connaît de rivaux qu'à la fourchette. C'est dans les grands magasins que tout s'achète. Tiens, ces patates, elles ne sont pas chères. Pompe golden et viande cachère. Ici, on ne gaspille que de la salive. Le médicament, c'est la bonne huile d'olive. Le bijou des mères est un cabas qui n'était pas rempli
bandit dans la coursive, le blême est du côté des gencives. Si tu voulais pas la bavure, fallait pas parler de nourriture. Je suis Danilo qui boit pas que de l'orangeade. On n'est pas tous égaux, on n'a pas la même ambassade. Je suis Danilo qui boit pas que de l'orangeade. On n'est pas tous égaux, on n'a pas la même ambassade. De mal à personne, à midi dans la rue y'a plus personne. On est comme on dit barricadé, quand on est à table on ouvre cadet. Petits fonctionnaires du ministère qui reviennent pour les sanitaires, ils sont attaqués par les mouches et nous comme des méchants manouches. Je vous dis pas comment on les traite, de paysans de face mal faite. On avait fait assez peu de le dire, on mangeait comme toi tu respires.
Et voilà, c'était Moussa Hakim, extrait de l'album live 20 d'honneur, qui fête leurs 20 ans de scène. Et cette chanson-là particulièrement, elle était parue à l'origine sur le disque, un des deux disques de 100% collègues. Et pourquoi on écoute ça ? Parce qu'on est en compagnie de tous ces gens-là, puisqu'il s'agit de... On vous diffuse des extraits d'une rencontre qui s'intitule « Le rôle des artistes, prendre la parole ou la porter ». C'était donc au festival Origines Contrôlées le 26 novembre 2010. Et là, tout de suite, on va partir, en fait, une fois que chacun s'est présenté. Hein, donc, Rosé, Saïd, Madj et Mousse se sont présentés. Et maintenant, une question vient de la salle. Une question, voilà, et vous allez entendre la question tout de suite.
Une question, c'était, bon, j'ai trouvé très intéressant. Les filiations dans lesquelles vous vous sentez et qu'à aucun moment vous ne parlez du jazz alors que vous parlez de vous vous sentez dans cette filiation des luttes afro-américaines. Enfin, vous avez parlé de voilà et donc non tous. Enfin, est-ce que justement je trouve étonnant voilà ça m'intéresserait de votre point de vue sur comme s'il y avait une rupture avec le jazz et voilà ça m'étonne ça m'interroge et j'ai envie de votre point de vue là-dessus.
Alors moi j'avais fait en 2006 un album qui s'appelait Identité en crescendo où j'avais invité Archie Shep par exemple dans cet album. Si j'avais invité Archie Shep, moi je m'accroche, si j'avais parlé d'esthétique et que j'avais voulu préciser ça, c'est que je m'accroche énormément à l'esthétique. Pour moi ça prime avant tout, je me protège par l'esthétique parce que je veux pas qu'on dise que je fais du social. Parce que on va toujours, on demandera jamais un violoniste pourquoi il fait du violon, on demandera toujours à un rappeur pourquoi il rappe. Et personnellement, je connais aucun rappeur qui rappe pour calmer les jeunes de son quartier. Il rappe parce qu'il a envie de faire du rap. Donc c'est pour ça que je m'attache à l'esthétique. Et on va dire que l'exception, c'est quand j'ai invité Archie Shep sur mon album en 2006, je l'ai invité pour ce qu'il disait dans ses interviews. J'ai appris à aimer ce qu'il fait après seulement. C'est, je l'ai invité pour ce que ça représente d'inviter. Quelqu'un qui est aujourd'hui un des derniers représentants d'une musique, je dirais, à contre-courant, qui s'est jamais faite récupérer, il y en a pas beaucoup, qui a participé aux luttes de libération de et plusieurs, et que quand on lit ses interviews qui peuvent dater des années 70, pas forcément ceux d'aujourd'hui, c'est des interviews qui sont en avance, qui sont beaucoup plus matures que 99% des interviews des rappeurs aujourd'hui. Qui sont en avance sur ça, qui ont ce recul sur comment une musique se fait récupérer, sur le fait justement de ne pas avoir le choix d'être neutre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne me sens pas comme un artiste engagé, je me sens surtout comme quelqu'un qui n'a pas le choix, qui ne peut pas être neutre. Parce que si on est neutre, si on n'a pas d'avis, forcément, on se fait prendre par le courant le plus fort. Et du coup, on est obligé, pas forcément d'avancer dans une autre direction, mais de résister. Et pour résister, il faut avancer dans l'autre direction. Et voilà, donc tout ça, oui, le lien avec le jazz, mais il n'est pas évident le lien avec le jazz. Pour moi, il n'est pas naturel. Pour moi, le rap, comme DJ Madge, le rap vient de la funk, vient de la disco. Le rap, c'est une musique, je suis désolé, mais le rap, c'est une musique capitaliste. C'est une musique qui est née dans le capitalisme aux États-Unis. Et pour moi, voilà, le rap ne vient pas du jazz. Il a, je trouve, beaucoup de parallèles avec le blues, parce que c'est quelque chose de très simple, de très épuré. C'est un micro, une guitare. Pour le rap, c'est un micro, un DJ. Après, bien sûr, il y a énormément de rap différents, de formes différentes. Mais le lien, pour moi, n'est pas forcément naturel avec le jazz.
Moi, je suis un peu le mauvais élève de l'histoire. Le jazz, enfin, moi, quand je suis rentré dans la musique, je suis rentré très tôt, quasiment préadolescent. C'est en réaction. C'est-à-dire que. Quel paysage j'avais, moi, quand j'étais môme, j'avais la chanson française, ça m'a toujours gonflé. Le jazz, bon, j'étais jeune, après j'ai compris d'autres choses, mais à l'époque, ça ne correspondait pas. Moi, j'étais plus virulent, j'étais plus rue, plus... voilà, et c'était pour moi une musique d'élite. Donc voilà, moi, ça m'a jamais... J'ai jamais eu de filiation avec le jazz, et c'est plus tard... Mais après, c'est une question aussi de sensibilité. C'est un truc au niveau rythmique qui ne me parle pas. Bon, après, il y a des très grands musiciens. Hein, mais il y a un moment où le jazz m'intéresse, c'est quand il retrouve le blues dans les années 40, que le blues s'urbanise, c'est-à-dire que les pauvres du Sud montent dans les mégapoles du Nord et de l'Ouest, et qu'on a au début, enfin juste après l'après-guerre, ce qu'on appelle le rhythm and blues, qui est le vrai sens du terme rhythm and blues, qui est en fait un mélange de, c'est une jazzification du blues qui le rend plus urbain et qu'on peut même qualifier de proto rock'n'roll. C'est-à-dire que le beat du rock'n'roll, il est chez des artistes comme Big Joe Turner, comme Ella May Morse, comme bon, enfin il y en a des. Quand on commence à mettre le doigt dedans, ça n'arrête plus. Et la chanson française, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Alors moi, après, on parle de Brel, de Brassens, moi, ça m'a toujours gonflé. Et la seule chose aujourd'hui, avec l'âge, parce que c'est vrai qu'il n'y a que les cons qui aussi ne changent pas d'avis, alors j'ai appris à apprécier une certaine partie de la chanson française, pas n'importe laquelle, une partie du répertoire de Piaf, par exemple, j'aime beaucoup Fréhel aussi. Mais voilà, c'est parce que c'est une identité dans le texte et dans ce qui est véhiculé, dans la prise avec la réalité que ça a, d'un truc très rue. Fréhel, ça parle de cocaïne dans les années 30, où elle dit qu'elle est toute grise parce qu'elle prend de la coco. Ça parle de voyous, ça parle de souteneurs, ça parle de... Alors il y a une très belle phrase où elle dit que son amant n'a pas eu besoin de faire le siège de sa vertu. Je trouvais ça, voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, moi c'est vraiment, j'étais dans quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus virulent, et en même temps toujours une identité de contre-culture. Et en lien avec ce que dit Rossé, le jazz, c'est une branche de la musique populaire américaine, parce qu'avant c'était populaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui vient du blues et de la country, c'est-à-dire c'est des trucs vraiment beaucoup plus du terroir, on va dire, qui est la filiation directe avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le rock ou dans le rap. Mais le jazz, à mon sens, a très très peu d'influence sur la musique dite de teenagers, rock'n'roll, rap, funk, voilà.
Par rapport au jazz, tout simplement parce que c'est pas notre culture. on parlait de culture de domination, de culture de combat, et par rapport à des trajectoires de vie, par rapport à des héritages, etc. Nous, notre culture, c'est la culture de nos parents, c'est ce que nos parents nous transmettent. Et nos parents, nous, nous transmettent du shabi, de la musique algérienne. Et les rappeurs américains, des grands groupes américains, certains, leur père était saxophoniste de jazz ou musicien, pianiste de jazz. Nous, nos parents jouent de la flûte, étaient bergers et jouaient de la flûte. Ça, c'est une histoire aussi d'héritage culturel, en réalité. Aujourd'hui, en France, le jazz est une musique d'élite, de bobo, en réalité. Et c'est pas une musique, c'est pas du tout une musique populaire. Et bien au contraire, puisqu'aujourd'hui, on est dans le rejet des gens qui nous méprisent, dans le rejet de cette classe dominante qui nous méprise, tout ce qui touche à cette classe dominante, on le rejette. Tout. Artistiquement, culturellement, la langue. Et pourquoi aussi, enfin, c'est là sur lesquels moi je refuse de faire des efforts avec la langue française, parce que finalement, j'ai pas envie de vivre cette injonction. C'est-à-dire, à un moment, je dois faire l'effort de pratiquer une belle langue française, etc. J'ai hors de question que je fasse cet effort pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que c'est souvent une injonction en réalité. Et nous, les injonctions, ça ne marche pas avec nous. Tête de mule. Les berbères.
Voilà, c'était des extraits de cette rencontre qui s'intitulait donc Le rôle des artistes, prendre la parole ou la porter. Il y avait donc Saïd qu'on vient d'entendre, Madj, Rossé et Mousse. Voilà, c'était un débat animé par Taïeb du Tactique Collectif. C'était enregistré au festival Origine Contrôlée à Toulouse le 26 novembre dernier. On entendra la suite la semaine prochaine, effectivement. On va rester sur ces paroles-là et on entendra la suite des débats qui ont été suscités par toutes ces interventions. Voilà.